Salut à tous, quel plaisir de vous retrouver dans le bistrot du vélo, une émission que vous pouvez retrouver sur toutes les bonnes plateformes de podcast, bien entendu, et sur toutes les applications Eurosport.fr. On attaque, comme d'habitude, tout de suite, avec notre menu, et un menu explosif. Aujourd'hui, buffet à volonté, on va revenir sur une semaine incroyable, et un moment historique, la victoire de Binyam Girmay, l'Érythréen. C'était il y a à peine 24 heures sur Gant Wevelgem. On parlera de ce plat au four. Est-ce que vous connaissez le plat au four? C'est une spécialité stéphanoise. Saint-Étienne, c'est notre invité du jour. Réponse dans quelques secondes. Et puis on terminera avec un round 2 des desserts à 6 jours exactement du Tour des Flandres. Voilà pour le menu. On accueille tout de suite notre invité. C'est Julien Jourdi qui est en Belgique. Justement, il prépare le Tour des Flandres. Le directeur sportif de l'équipe AG2R Citroën ira à travers la Flandre cette semaine. Comment ça va, Julien? Vous êtes dans votre hôtel avec toute l'équipe, toute l'équipe des Flandriens.
Bonsoir Guillaume. Effectivement, à Gand, en Belgique, pour préparer cette semaine sainte, on est en place depuis mercredi dernier pour E3, Gand-Wevelgem. Et comme tu l'as dit, à travers les Flandres mercredi, et bien sûr, on termine par un monument, le Tour des Flandres, le Ronde, dimanche prochain.
J'adore, la semaine sainte, c'est exactement ça. C'est la semaine sainte du vélo. Un petit graphique pour ceux qui ne te connaissent pas. Moi, j'ai appris un truc. Déjà, que t'es plus vieux que moi. Ça me fait plaisir, on est de la même année. Mais le 26 février, Julien Jourdi, qui est né à Saint-Étienne, qui a été directeur sportif, tu me dis si je me trompe, au VC Lyon-Vaux-en-Velin, pour un Stéphanois, va falloir qu'on en parle. RAGT ouais. Semence, et depuis 2006, tu es dans ce qui est aujourd'hui AG2R Citroën, mais qui est surtout France Cyclisme, l'équipe montée par Vincent Lavenue il y a 30 ans. 30 ans déjà, joyeux anniversaire à Vincent. C'est ça la carrière pour l'instant de directeur sportif?
Sans faute, Guillaume, effectivement. J'ai fait mes classes dans le monde amateur au Vélo Club Lyon-Bonvelin, qui était mon club quand j'étais coureur. Et j'ai pris la suite. Pas eu de transition entre la fin de ma carrière coureur et tout de suite dans le staff au sein du Vélo Club Lyon-Bonvelin. Puis effectivement, Serge Barle m'a ouvert les portes du professionnalisme au sein de Jean de la Tour au tout début. Et puis effectivement, RAGT Semence. Et puis j'ai une chance inouïe depuis 2006 d'être avec Vincent dans l'équipe AG2R Citroën.
On va apprendre à te connaître. C'est vrai que les gens te connaissent à travers les exploits de Romain Bardet, de Ben O'Connor l'année dernière sur le Tour de France, de vos 3 victoires d'étape sur les 3 grands tours également. Mais il y a quelqu'un qui t'a vu arriver, justement, qui aujourd'hui travaille avec toi. Alors je t'ai envoyé 4 vidéos sur ton portable. Je te propose tout de suite de regarder la première. Tu la lances, c'est Stéphane Goubert, directeur sportif, mais également ancien coureur de cette équipe à l'époque. Elle s'appelait AG2R La Mondiale. Tu la lances et on regarde ça avec toi.
Je vous présente en 2 mots Julien que j'ai connu en tant que directeur sportif. D'abord chez Jean de la Tour, il avait fait juste une petite pige pour le Grand Prix Gippingen. À l'époque, donc ça a été le premier contact avec Julien. Ensuite, bien sûr, chez AG2R en prévoyance, où il est arrivé en tant que jeune directeur sportif. Donc j'étais un vieux aguerri et donc il s'appuyait énormément sur moi pour connaître un peu tous les rouages du cyclisme de haut niveau. Et après, notre relation, elle est devenue un peu plus complice quand moi j'ai arrêté ma carrière, et c'est Julien qui m'a mis le pied à l'étrier pour devenir directeur sportif. Et depuis, on ne se quitte plus. Voilà, donc j'espère qu'il va me supporter encore longtemps. Et Julien, juste une petite question personnelle. Je sais qu'Axel est bien orienté foot, mais quand est-ce que tu le mets au vélo?
Axel, c'est le fiston. Plutôt foot, comme papa aussi, Saint-Étienne. Alors, quand c'est que tu le mets au vélo? Toi, tu es allé rouler cet après-midi.
Ouais, moi, effectivement, je suis allé rouler cet après-midi. Ça fait toujours du bien, parce que c'est clair, c'est course comme hier à Gand, où il y a 6 heures de stress dans la voiture. Et c'est vrai que le lendemain, si j'ai la possibilité de rouler, oui, effectivement, je l'ai fait. Et je me suis fait un petit peu plaisir. Je suis allé monter le Haut de Coirmont, Paterberg, Kortekir, Taillenberg et Eckenberg.
Ça, c'est le problème de dimanche.
Ouais, ça sera pour dimanche prochain. C'est clair que. Mais c'est important, j'aime bien, parce que on voit la brutalité de l'effort, la brutalité des pavés, des monts. Et c'est vrai qu'on est dans la voiture, on a du mal des moments à se remettre vraiment dans ce contexte particulier du Tour des Flandres notamment. Et c'est vrai que ça m'a fait du bien de faire un peu plus de 3 heures de vélo aujourd'hui et de me mettre un petit peu déjà dans l'ambiance du rond.
Et Axel, contre, tu protèges, tu ne veux pas que ça soit trop brutal, donc tu le laisses au football. Sport de Jeannette, aurait dit Eddy Merckx.
Ouais, le football, effectivement, quand on a la chance d'être né à Saint-Étienne et d'avoir vécu des grandes choses dans le chaudron à Saint-Étienne, c'est clair qu'il y a une grande passion pour le football à Saint-Étienne. On sait que c'est un milieu ouvrier et qui a toujours porté, supporté son équipe, et c'est encore le cas actuellement. Et c'est vrai que j'ai la chance de connaître beaucoup de personnes au sein du club de l'ASS, et c'est vrai que c'est toujours particulier d'être un Stéphanois et de pouvoir vivre ces émotions-là au stade. Et pour Axel, oui, pour l'instant, c'est plutôt foot. Mais bien sûr, de temps en temps, une petite sortie avec papa, ça permet de l'endurcir pour le football.
On va en parler dans quelques instants. Vous pouvez poser vos questions à Julien Jourdi, directeur sportif de l'équipe AG2R Citroën. Et puis, je vous invite à partager l'émission, à la retweeter également. Enfin, tout ce que vous pouvez pour gagner ceci. Je ne sais pas si tu l'as, c'est le grand livre du cyclisme français qui sort chaque année, hein, qui est édité par nos amis de la Ligue nationale de cyclisme. Texte de Claire Bricogne, notre consoeur de l'équipe, qui a commencé ici, enfin, en tout cas, qui est passé par Eurosport, avec l'excellent Bruno Bade pour les photos. Et puis, préface de Rémi Cavagna. On va vous faire gagner un exemplaire. Toutes les semaines, vous partagez l'émission. On va prendre des questions. Il y a déjà Christian qui est arrivé, il y a Stéphanie. Quelles sont vos satisfactions depuis le début de saison? Tiens, pim, une question qui vient de Stéphanie, Julien.
Les satisfactions, c'est vrai que pour l'instant, c'est une très bonne question. C'est vrai que notre début de saison, honnêtement, est un peu poussif. On a eu des belles opportunités. Je pense notamment au podium de Greg Van Avermaet au Omloop fin février avec cette belle troisième place sur le début des classiques. Et ça a été un bon moment, parce qu'on sait que ces courses-là sont particulières, atypiques, et que c'est très compliqué de monter sur la boîte.
Et c'est là
Donc, c'était
qu'on
un bon moment.
et on lance la confiance également. Hier, vous étiez à Ganvevleghem. On va attaquer par notre première partie. On a mis historique. Bini, Vidi, Vici, Bini, c'est son surnom. Biniam, il est venu et il a gagné. Tu étais dans la voiture. On va revoir le final. C'est un moment historique. C'est le premier coureur d'Afrique noire, tout simplement, à remporter une course World Tour. Classique ou pas, il y avait eu Daryl Impé, il y avait eu Christopher Froome, mais lui, il est érythréen. Est-ce que le monde du cyclisme, hier, a eu l'impression de vivre justement ce moment historique qui, à mon avis, va ouvrir la porte à toute une génération de coureurs venus de l'Afrique noire?
Oui, c'est clair qu'hier, c'était un moment particulier, hein, pour le cyclisme. On voit que le cyclisme s'internationalise de plus en plus. Et c'est vrai que cette victoire, hier, est assez impressionnante. En plus, moi, ce qui m'étonne encore plus, c'est son âge, 21 ans. 21 ans, très peu déjà de coureurs européens arrivent à gagner Gent-Wevelgem à 21 ans. Donc, c'est clair que hier soir, c'est une page de l'histoire qui s'est ouverte au niveau du cyclisme international. Et j'espère, je le souhaite, que l'Afrique puisse profiter de ça, de cet élan. On sait que physiquement, intrinsèquement, les athlètes africains sont très doués pour les sports d'endurance. Donc c'est clair que ça peut ouvrir des portes à beaucoup, beaucoup de choses. Et j'espère que dans le futur, on arrivera à concourir avec un peu plus de coureurs africains au sein du peloton.
Il était en France, hein, il n'y a pas si longtemps, dans l'équipe Delco qui a disparu. Et c'est M. Jean-François Bourlard qui est allé lui mettre la main dessus pour
Ouais.
l'équipe Wanty-Gobert Intermarché. On va l'écouter. Binyam Girmay en anglais, traduction de Louis-Pierre Frileux. C'était juste après l'arrivée que vous avez suivi en direct hier sur Eurosport. Binyam Girmay.
Je n'avais même pas espéré ça. Vous savez qu'on a
We
changé mes plans
just came
il y a
to
quelques
my
jours,
plan
genre vendredi
in a few
soir.
days like Friday night, so yeah, I'm just coming for
Je suis venu
some
ici
good result, but
pour aller faire un bon
like
résultat,
this
oui,
race
mais
is amazing, I
gagner cette
unbelievable.
course, c'est
Is there any
juste
chance you're
incroyable.
gonna change your plan again
Vous
now
allez
with the
encore
Tour
changer
de
vos plans
Flandre in
maintenant avec le
prospect?
Tour des Flandres
I
qui
don't
arrive
think
ou pas?
so.
Ah non, je
Now
pense
we are
pas.
since long time, you know, I stay 3 months,
Non, non,
so I
je
miss
c'est
my
3 mois
wife,
là,
my
ma
daughter,
femme me
so I have to
manque,
go back home.
fille me manque,
It
je
was
veux rentrer à la
amazing you
maison.
went early in that sprint. That was
Vous avez
it looked
lancé
too
tôt
early at some
ce
point.
sprint, on pensait que même c'était trop tôt à un moment. En fait, je me
Also,
sentais bien.
there is really strong guys with me,
Ah, il y avait des gars forts avec
so
moi,
I'm a bit afraid.
hein. Donc j'avais un peu
But
peur.
yeah, when I went back, I'm the last,
Mais
so I feel
j'étais le
more
dernier à rentrer.
confident, especially
Et en fait, j'ai
when
pris
in
de la
the
confiance.
last 250 meters, I
À
was a bit
250
confident,
mètres, j'étais à
but
250 mètres, j'étais encore assez
I don't know,
confiant.
it's not this
En fait,
unbelievable.
ouais, je sais pas,
You
c'est
are
juste
already a
incroyable.
hero.
Binyam Girma, une bonne nouvelle, il ne sera pas au rang de Van Vlaanderen. Il va couper, il va rentrer en Érythrée, voir sa femme et son gamin. Et puis on devrait le retrouver par contre sur le Giro. Il sera face à l'équipe AG2R, la mondiale. Il disputera le Tour d'Italie. Une question, tiens, puisqu'on parle d'hier, il y a Mickaël qui vous demande, Julien qui te demande, est-ce que c'est Greg Van Avermaet qui décide un peu de stopper, de couper son effort dans le final? Il a été très actif, des fois un petit temps de retard. Qu'est-ce qui s'est passé dans le final pour Greg hier?
Ouais, effectivement, c'est la grosse frustration de la journée hier. On a vu un Greg plutôt offensif tout au long de l'après-midi sur les routes de Gand. Il avait anticipé également un bon coup après le premier passage du Kemmel. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Et dans le final, oui, beaucoup de regrets. Il manque 2 secondes de réaction pour prendre la roue à Christophe Laporte et du groupe. Voilà, non, il ne s'est pas relevé. C'est que bon, les jambes devant sur ces courses-là, 10 mètres, 15 mètres, ça suffit pour faire la différence. Et voilà, les 4 s'entendaient très, très bien à l'avant, étaient très, très forts. Et derrière, Luno X et Greg, bah, il en a manqué un petit peu. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de frustration dans la voiture. Ce qu'on voyait grignoter mètre par mètre, ça s'est arrêté environ à 10-15 mètres des 4. Et là, on s'est dit, oh là là, ça va être compliqué de rentrer. Et puis effectivement, à la sortie de Ypres, voilà, Greg ne pouvait pas rentrer. Donc le peloton derrière est revenu. Et qu'on voit qu'ils vont au bout. Après, en plus, avec les images, on s'est tout de suite aperçu que la poursuite derrière était compliquée et que ces 4-là s'organisaient très, très bien, qu'ils étaient très forts physiquement et qu'il y avait de grandes chances qu'ils aillent au bout. Et c'est vrai que la frustration était assez importante après à Linz, que si Greg arrive à choper ce groupe de 4, on est pratiquement sûr d'être sur le podium, parce que Greg a ses facultés, comme il l'a montré l'année dernière aux rondes. Après 5h42 d'effort au sprint, il est très fort, Greg. Et c'est clair qu'on aurait pu s'imaginer des scénarios, mais bon, avec Dessy, je suis Premier ministre. Donc,
oula, Dieu t'en garde. Dieu t'en garde d'être Premier ministre. C'est pas facile de dormir quand on est en responsabilité. Je sais que c'est pas facile de dormir quand on gère une équipe professionnelle. On parlait de ce qui s'est passé hier. Et puis, moi, j'ai envie de dire, j'ai envie de le prendre côté positif. J'ai trouvé Greg, j'ai trouvé l'équipe AG2R Citroën plus actrice de la course qu'elle l'a été quelques jours auparavant sur le Grand Prix E3, où là on a eu une démonstration de Christophe Laporte et de Wout Van Aert. Je trouve, moi, qu'il y a eu des progrès. Par contre, il va falloir se taper les Jumbo Visma sur les Flandriennes. Elle fait peur, cette équipe, Julien Jourdi?
Ouais, elle fait très très peur. Hein. C'est clair qu'elle est impressionnante. Et le scénario de vendredi à E3, on le connaissait. On se doutait fortement qu'avant le Teilenberg, l'équipe Jumbo allait mettre un grand coup de vis pour faire un copier-coller de ce qu'avait fait la Quick-Step l'année d'avant. Et le scénario était écrit, les coureurs le savaient. Après, malheureusement, c'est les jambes qui parlent. Et c'est vrai que vendredi, il n'y a pas de frustration parce que les jambes n'étaient pas là. Le collectif n'était pas au niveau non plus, les jambes n'étaient pas là. Donc, c'est clair qu'on s'est pris une bonne claque vendredi à E3. Et c'est vrai qu'hier, ça a fait du bien malgré tout d'être présent collectivement, de voir Greg offensif, même si à la fin, le résultat, ce n'est pas ce qu'on va chercher. Une 17e place pour l'équipe AG2R Citroën, ce n'est pas l'objectif au départ. Donc voilà, donc il y a du positif, mais c'est vrai que Jumbo manie très, très bien l'ensemble du peloton. On va dire que c'est assez facile quand vous avez 7 garçons qui sont très, très forts au départ, un leader qui est au-dessus. Voilà, les choses sont beaucoup plus simples et c'est vrai que dimanche prochain, ça va être compliqué de déstabiliser l'équipe Jumbo et d'enterrer Monsieur Wout Van Aert.
Mais on a vu hier que c'était possible, puisqu'à l'arrivée, ils ont été battus et puis il y en a d'autres qui vont vous aider. Je pense à Mathieu Van Der Poel, je pense à Tadej Pogacar et je pense également au Volpac, le pacte des loups, la meute des loups, je ne sais plus comment on dit, la meute des loups, ouais, c'est bien ça. Avec le vainqueur sortant, hein, ce sera Casper Asgreen. Je vous rappelle, vous pouvez gagner ceci, le grand livre du cyclisme français. Vous partagez l'émission, il y a plein de questions qui arrivent, je les prends comme ça. Une victoire comme tous les ans sur le Tour de France, question de Laurent. On va revoir la vidéo parce que l'année dernière, ça a été entrée, plat et dessert. Vendramé en entrée sur le Giro, Ben O'Connor sur le Tour de France et le dessert pour Champoux, Clément Champoussin sur la Vuelta. Un hat-trick pour les 30 ans de la boîte. On aura les mêmes objectifs cette année chez AG2R, aller chercher les victoires sur les grands tours.
Oui, forcément, c'est l'ADN de l'équipe. On sait, on a cette chance-là, notamment sur le Tour de France, de gagner régulièrement des étapes, d'être présent sur le classement général également. Donc oui, bien sûr, l'objectif prioritaire sur les grands tours et notamment le Tour de France, c'est d'aller chercher la victoire et on a, je pense, un groupe tout à fait compétitif pour aller chercher cette victoire et faire un bon classement général.
Comment on va gérer maintenant la montée en puissance de Ben O'Connor? Ben O'Connor qui montre qu'il va bien. Victoire, parce que tu dis, bon, début compliqué, oui, de saison. Mais là, ça y est, vous avez déverrouillé votre compteur. Il y a eu Marc Sarro. Et puis, il y a eu surtout dans la semaine, Ben O'Connor qui est allé chercher une étape sur le Tour de Catalogne et qui a aussi récupéré le maillot de leader. Même si ça a été assez furtif, le port du maillot de leader, Ben O'Connor prouve encore qu'il est là dès le début de cette saison au contact des meilleurs. Hein, parce qu'il y avait une vraie liste de départ en Catalogne.
Oui, c'est clair, ça nous a fait énormément de bien cette victoire en Catalogne à la pédale avec un certain opportunisme. Hein. Quand Ben attaque à 8 km du sommet, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de téléspectateurs qui croient à ce moment-là à la victoire de Ben. Hein. En plus, on voit les Ineos qui étaient bien organisés. Et voilà, et c'est clair que c'est une des facultés de Ben d'avoir une bonne lecture de la course et de ne pas avoir peur d'attaquer. Ça, c'est clair, c'est quelque chose qu'il a et qu'on essaie de le conserver. C'est important pour le futur. Et puis Ben, on sent vraiment qu'il se sent vraiment bien dans l'équipe. Il a son statut de leader. Et là, il a montré à l'ensemble du groupe qu'on pouvait compter sur lui et qu'on doit donner le maximum pour accompagner Ben. Parce que je pense honnêtement que Ben a vraiment la capacité de refaire un excellent Tour de France cette année. Ça va passer par des belles courses à étapes comme le Romandie, comme le Critérium du Dauphiné. Où il va pouvoir aussi jouer avec les meilleurs au niveau du classement général. Mais oui, Ben, honnêtement, a démontré cette année qu'il sera encore sur un autre niveau en 2022 que 2021.
Ouais, quatrième du Tour de France l'année dernière, Ben O'Connor, si on nous avait dit que vous alliez trouver aussi vite, finalement, un successeur à Romain Bardet, il n'y a pas beaucoup de monde qui l'aurait cru. Et pourtant, vous l'avez, ce coureur. Romain Bardet, ça a été, j'imagine, dans ta carrière de directeur sportif, dans la carrière de manager général de Vincent Lavenue aussi, de grands moments, une grande histoire.
Ouais, une très belle histoire avec Romain. On a partagé des choses, honnêtement, des émotions, des sourires, des larmes. Honnêtement, j'ai fait beaucoup de stages de montagne en altitude avec Romain, justement, pour préparer le Tour de France. Donc, c'est des moments un peu intimes et je me suis vraiment régalé avec Romain, qui nous a mis un petit coup de pied au cul quand il est arrivé. Parce que, il faut faire ci, il faut faire ça, on va essayer d'exploiter ceci, on va essayer d'exploiter cela. Et il a eu raison et il nous l'a démontré avec ses deux super podiums et ses victoires d'étape au Tour de France. Et c'est clair qu'on a ce savoir-faire et c'est pour ça qu'avec Ben, on a envie. Et comme tu le disais, Guillaume, on ne pensait pas le faire si tôt. Et justement, avant l'émission, on commençait à préparer avec Jean-Baptiste Kiquel le Tour de France, le stage en Sierra Nevada, avec Greg, de refaire un petit peu ce qu'on avait fait avec Romain pour amener Ben dans les meilleures dispositions au mois de juillet, d'ici quelques semaines.
Jean-Baptiste, qui est l'un des entraîneurs hein, de l'équipe G2R Citroën. Tiens, juste comme ça, moi je la glisse, mais c'est quelque chose que j'ai en tête depuis quelques jours. J'ai entendu Christophe Laporte, il avait fait déjà 3 semaines d'altitude. On sait que la Jumbo-Visma a un deal avec Tignes, hein, il s'entraîne à Tignes depuis quelques années. Ça aussi, est-ce que chez toi, les coureurs de classique font de l'altitude? J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il va falloir passer par là maintenant.
Non, c'est clair qu'on a vu en début de saison beaucoup de classiquemans effectuer des stages en hypoxie. Ce n'est pas le cas de l'équipe cette année. On est plus concentré par rapport aux courses à étapes dans ce travail-là. Mais c'est clair qu'on étudie la question avec beaucoup de sérieux pour le futur. On s'aperçoit qu'effectivement, certains coureurs, au mois de janvier, au mois de février, passent de longues journées en altitude pour préparer les classiques. Donc, c'est peut-être quelque chose que l'on va faire dans le futur. Mais pour l'instant, on se consacre sur les courses à étapes. C'est pour ça qu'on va effectuer un gros stage au mois de mai en Sierra Nevada à 2400 mètres d'altitude pour préparer justement ce Tour de France.
Vous avez vos habitudes d'ailleurs, c'est Romain Bardet, hein, tu disais tout à l'heure, qui vous avait amené là. L'avantage, c'est que Romain, il est sorti de Chambéry, de la formation, cette équipe qui se structure également, il y en a plein, dont un qui s'appelle Aurélien Paré-Peintre. Aurélien Paré-Peintre qui avait remporté la Marseillaise, mais c'était l'année dernière. Il t'a adressé un petit message. Je t'invite à prendre ton portable. Il y a Aurélien qui parle de toi, de ta façon de coacher et qui a une question à te poser. Tu le connais. Il est un petit peu taquin, Aurélien Paré-Peintre.
C'est un directeur sportif qui est très charismatique dans le peloton. Il fait toujours des briefings très, très engagés. Moi, j'aime bien sa mentalité qui se rapproche un petit peu de son côté footballistique. Il motive les troupes, il fédère un groupe en plus des stratégies. C'est quelqu'un qui motive énormément au départ des courses, qui fait un peu monter la pression et qui est vraiment passionné par les gros événements, les grosses courses, comme sur les monuments. Il arrive à vraiment nous faire sentir l'enjeu de la course. Une petite question sûrement embarrassante pour toi en ce moment. Quel est l'avenir de Saint-Etienne en Ligue 1 pour la prochaine saison?
Très bonne question. J'ai eu la chance de rencontrer Pascal Duprat plusieurs fois pendant mes journées off à Saint-Etienne. Et je suis plutôt optimiste pour le maintien de Saint-Etienne en Ligue 1. Je pense que Pascal Duprat est l'homme de la situation qui va savoir manager justement ses joueurs pour conserver. Et je pense que c'est important d'avoir un club mythique comme celui-ci, comme celui de Saint-Etienne en Ligue 1. Donc voilà, donc
je suis confiant. T'es confiant et tu n'es pas candidat au rachat de Saint-Etienne?
Non, j'ai regardé encore tout à l'heure mon livret A, mon PEL, j'ai pas assez.
T'as pas assez? Un appelant Vincent Lavenu, non? C'est tout pour le vélo, Vincent. Ça fait des années, on le connaît, Vincent Lavenu, il a bien raison. Une belle image aussi, on a vu celle de Ben O'Connor, c'est la victoire de Marc Sarraut. Marc Sarraut, il y a des garçons qui l'oublient, mais il était de la chute où il y avait Rune Wegen, où il y avait Fabio Jakobsen, c'était sur le Tour de Pologne. Il souffrait du genou encore ces dernières semaines. Cette victoire va lui faire du bien. C'était sur Cholet, manche de la Coupe de France. Et ça m'amène une question, avec tout le respect que j'ai à Marc Sarraut, à quand un grand sprinter dans l'équipe AG2R Citroën, c'est-à-dire un sprinter de niveau mondial? Ça n'a jamais été fait chez vous. Pourquoi ce choix?
Effectivement, Guillaume, on s'est posé la question plusieurs fois avec Vincent. J'ai la chance de travailler depuis de longues années avec Vincent. Il me fait confiance au niveau du recrutement. Donc, on travaille main dans la main par rapport à ça. Et c'est vrai que plusieurs fois, on met la question sur la table. Est-ce qu'on embauche un sprinteur de classe mondiale avec tout ce qui va avec? Le train, voilà,
le poisson pilote, 2-3 coureurs. Voilà.
Et après, automatiquement, l'ADN de l'équipe, les courses à étapes, la montagne, les grimpeurs.
Comment vous faites la même chose avec Greg, avec Bob, avec Oliver, quand vous créez un groupe de Flandriens? Pourquoi pas?
Mais c'est moi, un groupe de Flandriens, c'est, je pense, moins compliqué, notamment sur le Tour de France. Par exemple, cette année, nos Flandriens vont beaucoup nous servir en début de tour au Danemark, sur l'étape pavée dans le Nord. Voilà. Tandis que si on part sur un Tour de France avec un sprinteur qui va nous mettre la pression pour emmener, pas deux coureurs, mais 3 voire 4 coureurs pour l'emmener au sprint, qu'est-ce qu'on fait avec Ben O'Connor? Voilà, et nous, l'ADN de l'équipe, depuis des années, et je pense qu'on est dans le vrai, parce que le Tour de France reste la référence au niveau des courses. On a effectué 3 podiums avec Jean-Christophe Perrault, Romain Bardet, des maillots, maillot des jeunes avec Pierre Latour, maillot à poids avec Romain, le classement par équipe. On a tellement vécu de belles émotions sur le Tour de France en ayant cet état d'esprit offensif pour les étapes et pour le classement général, qu'à la fin, on se dit, certes, on est l'une des équipes qui gagnons le moins de courses à la fin de l'année. Ça, c'est une certitude. Régulièrement, le compteur des victoires, c'est 8, c'est 10, c'est 12, c'est 15. Des moments, ça se passe très, très bien, c'est 20. Mais face à des équipes qui ont 1 ou 2 sprinteurs qui engrangent chacun 10, 15 victoires par saison, voilà. Après, c'est des questions qu'on se pose, mais l'intérêt des courses à étapes est plus fort au sein de l'équipe AG2R Citroën. Et voilà, et on aime nos montagnes. Hein, le service course est à Chambéry, au milieu des Alpes. Et c'est pas que pour nous, ça détériore un peu trop le dispositif.
De toute façon, on ne peut pas jouer sur les deux tableaux quand on n'a pas le budget. La Jumbo aujourd'hui, ou même les Émirats Arabes Unis, on ne sait même plus quel est le budget de l'équipe. Je pense que là, on a atteint des formes astronomiques. Donc là, on peut avoir des sprinteurs, un groupe de sprinteurs, des pure leaders. On voit bien Patrick Lefebvre, il a des sprinteurs. Pour aller gagner des courses à étapes, c'est plus compliqué. Il n'y est jamais arrivé. Il a essayé avec Rigoberto Urán. Il va falloir qu'il change probablement son équipe avec Remco Evenepoel. Mais à part d'avoir un super budget, et on va se le dire tout net, le budget AG2R, c'est 2 fois moins que les plus gros budgets du World Tour. La vérité, elle est là aussi, Julien.
Oui, bien sûr, bien sûr. Après, c'est clair que nous, ça nous intéresserait d'avoir un top sprinter pour faire, par exemple, un Giro ou une Volta. On peut effectivement aller dans ce sens-là. Mais voilà, c'est très compliqué. Les très bons sprinteurs qui ont la capacité de gagner des étapes sur le Grand Tour ou gagner des étapes sur les grandes courses à étapes ne sont pas très nombreux. Et ça coûte cher, forcément. Donc voilà, donc l'idée, on l'a une fois de plus souvent abordée, mais on l'a très rapidement abandonnée pour se consacrer à ce qu'on sait faire. Mais effectivement, Marc Sarraut, on a quand même, on n'est pas fou, on sait que c'est important d'avoir des garçons qui vont vite dans une équipe. Si on veut scorer, il faut des garçons qui vont vite. Et Marc Sarraut, pour moi, est une bonne pioche. Effectivement, malheureusement, sa chute en Pologne l'a beaucoup déstabilisé mentalement, physiquement. Il se reconstruit petit à petit. C'est pour ça que sa victoire à Cholet est vraiment très importante. Malheureusement, il n'a pas pu disputer la route Tourangelle hier parce qu'il a eu un début de grippe. J'espère qu'on va le retrouver rapidement, notamment à la route Adélie et au circuit de la Sarthe. et qui va pouvoir continuer à gagner. Mais je pense que cette première victoire, il va y avoir un effet de un déblocage et je pense qu'on va voir Marc Sarro actif dans les prochains sprints.
On lui souhaite. Et puis il y a Dorian Godon aussi qui fait de bons sprints et qui a fait de bons sprints sur le Tour de Catalogne. Tiens, je vais te montrer l'image d'un sprinter qui coûte cher. Mais pourtant, c'est sa seule victoire depuis le début de la saison. Par contre, c'est sa 70e victoire en carrière. Monsieur Nasser Bouhanni qui s'est imposé hier, nouvelle manche de la Coupe de France, c'était en direct sur Eurosport. Il a remporté la Roue Tourangelle en se servant de Bram Belten, hein, le coureur de la Groupama FDJ comme poisson pilote. Bram Belten qui était avant chez Arkea Samsic. Je propose de l'écouter. Nasser Bouhanni, première victoire de la saison, sa 70e tout simplement.
Oui, décrocher la première victoire de la saison, c'est toujours important. Et je tournais beaucoup autour avec des deuxièmes et troisièmes places et j'arrivais pas à concrétiser, donc je suis content de remporter cette première victoire cette saison. Et mes coéquipiers, je leur avais dit que l'important c'était que ça arrive au sprint et quitte à me débrouiller tout seul dans le final. Il fallait vraiment qu'on cadenasse toute cette partie à des pavés jusqu'à arriver ici à Tours dans le circuit, quoi. Et le dernier relais de Kevin Vauquelin pour revenir sur l'échappée était très important aussi, et Laurent Puchon sautait aussi dans les coups pour casser les attaques.
Eh bien, Nasser, je suis en train de me servir un petit coup. Hein. Émission à l'eau claire, bien entendu. On va regarder le mondomètre. On a tendu d'inviter SG2R, il fallait qu'ils aient scoré. Pour l'instant, vous apparaissez pas dans le mondomètre. Les deux meilleures équipes françaises sont Arkea, 6e victoire, et Cofidis, 6 victoires également. Encore une victoire pour l'équipe des Émirats Arabes Unis qui s'est imposée hier, je crois. C'était en Italie, grâce à Diego Ulissi. Et puis le Françomètre est là. Ça y est, l'équipe AG2R apparaît avec ses victoires de Ben O'Connor et de Marc Sarro, Arkea et Cofidis. 5 victoires pour la Total Energy. Il y en a eu au Tour du Rwanda, même chose pour la B&B Hotel. Et puis une victoire pour la Groupama. Attention, les Groupama qui ont connu un début de saison compliqué, ils sont en train de se remettre en place. On les a vus plutôt bien avec Stephen Kung. Je pense que tu l'as vu de près, Stephen Kung, qui sera notre invité dans le bistrot dans 2 jours. Et puis certaines choses nous font penser qu'avec des Quentin Paché, avec un David Gaudu qui a repris l'entraînement, hein, après sa chute sur Paris-Nice, ça devrait aller mieux pour les hommes de Marc Madio. On va rentrer dans une partie qui t'est concernée, qui te concerne un petit peu plus. Dans quelques secondes, tu auras droit à ton questionnaire Bistro Vélo. Mais là, tu vas ouvrir ta 3e vidéo. C'est quelqu'un que tu as connu justement lorsqu'il était entraîneur de Saint-Étienne. Vous avez lié une vraie amitié. Il s'appelle Christophe Galtier. Tu vas voir, c'est assez intéressant. Ça va pouvoir permettre de comparer les deux rôles d'entraîneur et de directeur sportif. Écoute Christophe.
Mon cher Julien, mon professeur de vélo, celui qui m'a initié au cyclisme de tourisme, et c'était toujours très intéressant. Je suis passé chez la team Ineos, mais je relate toujours attentivement ce qui se passe chez AG2R Le Mondial, et j'ai vu que mercredi, lors du Tour de Catalogne, une belle victoire d'AG2R Le Mondial dans une étape de montagne. Mon cher Julien, j'ai une question à te poser. Y a-t-il, d'après toi, une grande différence en termes de management entre gérer une équipe lors d'un match et des coureurs lors d'une étape ou lors de la grande boucle? Voilà, j'attends ta réponse avec impatience. Je t'embrasse.
Très bonne question.
Alors, non, mais c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant parce qu'on dit souvent que le cyclisme est un sport individuel. Et je vais encore balancer un pavé dans la mare, mais aujourd'hui, quand je regarde le foot, je trouve le foot très individuel. Et les mecs qui sont sur le stat, la passe décisive, le but, machin. Et alors que le cyclisme est en train de devenir de plus en plus collectif, avec le niveau qu'il y a, tu ne gagnes pas si tu n'as pas d'équipier.
Exactement. Je répète souvent à mes coureurs, sport individuel qui se pratique en équipe. Le cyclisme, pour moi, c'est ça. C'est un sport individuel qui se pratique en équipe. Et tu as parfaitement raison. C'est impossible de gagner une grande classique, de gagner une grande course à étapes sans un fort collectif. Et ça, c'est, à l'heure actuelle, c'est mission impossible. Donc oui, ça se rapproche. Christophe a eu la chance de partager une très belle étape du Tour de France à l'Issoire. Lorsque Romain avait fini 3e en haut de l'Issoire, il était avec Vincent et moi dans la voiture. Il avait pu justement partager.
Là, on voit une image, il est dans la voiture d'Ineos, mais c'était sur Paris-Nice, intérêt ouais, oblige.
Je l'avais invité à... Comme on communique pas mal avec Christophe, je l'avais bien sûr invité à l'étape de Nice, et malheureusement, il m'a dit « Julien, je suis désolé, mais… »
Faut que tu changes d'équipe.
Avec Ineos, tout ça. Il nous a fait un petit coucou, hein, d'ailleurs, dans la voiture, qui nous a doublé. Voilà, donc c'est sympathique. Mais c'est vrai que le coaching, j'ai eu la chance d'être régulièrement au stade d'entraînement et d'être également au stade à Geoffroy Guichard avec Christophe. de pouvoir apercevoir un petit peu. Et on échange beaucoup dans ce domaine-là avec Christophe, également avec Pascal Duprat, dans nos différents corps de métier, notamment dans ce management au quotidien de nos athlètes et lors d'un événement comme un match de foot ou comme une classique ou une étape du Tour de France. Et il y a beaucoup de rapprochements. C'est clair qu'il faut beaucoup de psychologie pour aller chercher le meilleur de son athlète. De la tactique, bien sûr, de mettre les bons rôles aux bons coureurs, comme le font un entraîneur de foot quand il compose son 11 de départ. Ben, nous, pareil, qu'on compose notre équipe, qu'on fait le briefing, de savoir le leader, dans quelles conditions on doit l'emmener, l'équipier, qu'est-ce qu'il doit faire. Donc, il y a beaucoup de similitudes pour moi entre un entraîneur de foot et un directeur sportif dans une équipe de vélo.
Tu parles à la tête, ça c'est la tactique, et après tu parles au cœur et à l'âme, c'est ça que tu essayes de motiver, c'est ce que nous disait Aurélien Paré-Pin tout à l'heure aussi.
Ouais, exactement, je mets beaucoup d'envie dans mes briefings, j'essaie de construire ça avec beaucoup de passion, parce qu'avant tout, pour moi, je fais un métier passion, et je veux que mes coureurs le ressentent également, que voilà, c'est pas l'usine ici, on est tous émerveillés par notre métier. Et quand on se lève le matin, je leur dis souvent, les gars, la banane, la banane le matin, on fait tous le plus beau métier du monde. Et je veux qu'ils ressentent lors de mes briefings, justement, qu'on est là pour être acteur, pour essayer de gagner la course. C'est l'objectif de chaque équipe. Et bien sûr, de l'équipe AG2R Citroën. Et voilà, et c'est clair, l'émotion, elle est importante de faire partager ces moments-là, que les mecs se rendent bien compte de là où ils vont aller. Dimanche, c'est un monument. C'est une course à part et particulière. Donc, c'est clair qu'il y aura beaucoup d'intensité lors de mon briefing pour faire comprendre qui sont sur une course atypique et particulière qui n'existe qu'une fois dans l'année et que cette journée, il ne faut pas la louper.
C'est pour ça que tu te nourris du parcours en allant faire 3 heures dessus. C'est pour ça que tu m'appelles de temps en temps pour me casser les bonbons, pour avoir des vidéos, des courses passées, pour faire des briefs vidéo également dans les bus. Ça, c'est quelque chose que tu as mis en place en copiant ce qui se fait dans le foot, par exemple.
C'est exactement ça. J'ai eu la chance avec Christophe d'échanger beaucoup de vidéos au niveau de la tactique, du débriefing. Et c'est clair, depuis maintenant quelques années, j'utilise sur chaque course d'un jour la vidéo de la course d'avant avec les points forts, les points faibles, les favoris, comment les favoris se sont dégagés dans le final, comment la victoire s'est créée. Et je fais une analyse de ça que je redonne aux coureurs le jour du briefing sur un format court de 4, 5, 6, 7, 8 minutes. Et à la fin, je conclue toujours mes briefings aussi par une vidéo un petit peu émotion, pour qu'ils aient un petit peu les poils qui se dressent sur les bras et qu'ils sortent du bus avec beaucoup d'envie pour aller chercher le meilleur résultat.
Tu alimentes l'imaginaire. Il y a quelqu'un, c'est Mickaël, qui dit « Ouais, mais en fait, le résultat, au final, au foot, c'est l'équipe qui gagne. Et en vélo, il n'y en a qu'un qui gagne. Ça doit être difficile de se sacrifier pour les autres. Parce que c'est vrai que même quand on joue ses stats au foot, c'est l'équipe qui gagne. C'est pas le joueur. Alors que si vous gagnez le Ronde van Vlaanderen dimanche, ce sera pour Greg ou Oliver ou un autre.
Oui, c'est une bonne réflexion. Mais après, justement, c'est ces messages-là qu'il faut. Moi, je mets beaucoup d'intensité auprès des équipiers. Je dis souvent, la bise que va avoir l'un d'entre vous, et notamment nos leaders à la fin, c'est aussi grâce au travail indispensable, le travail de l'ombre, ça c'est une certitude. Mais la victoire, elle se construit petit à petit. Et au départ, si on n'a pas l'équipier qui fait le job, qui va chercher les bidons, qui ramène les vêtements à la voiture, qui protège le leader du vent, toutes ces petites choses que l'on connaît parfaitement, eh ben, la victoire, elle est impossible. Et c'est clair que malgré tout, même si c'est, j'espère que ce soit Greg ou Oli qui gagne dimanche le ronde, ben, il faut partager cette victoire. Et les équipiers ont tous un bout de victoire. Quand on gagne, c'est quelque chose d'indispensable pour le bon fonctionnement de l'équipe. Et si ça ne fonctionne pas, ben, on court à l'envers et il n'y a aucune chance de gagner.
Ça peut être Stan Neuwulf également, je te le souhaite. On va rentrer dans la partie questionnaire. Le questionnaire Bistro Vélo. Questionnaire Bistro Vélo de Julien Jurdi. 5 questions, tu réponds, c'est très simple. Ton meilleur pote dans le peloton, Julien Jurdi?
Cyril Dessel.
Ancien coureur de l'équipe, ancien porteur du maillot jaune. Pourquoi Cyril?
On a une très très belle histoire avec Cyril. On s'est connus dans les rangs amateurs. On a commencé le vélo ensemble à l'âge de 18 ans au club de Pélussin. Vincent a été coureur professionnel à Pélussin. C'est une toute petite équipe avec le sourcier du Pilat, M. Rivori. Et on a fait nos classes avec Dominique Garde, qui était notre entraîneur à cette époque-là, au sein du club de Pélussin avec Cyril. On a monté les échelons et on ne s'est jamais quitté. Et Pélussin, ça doit être en 1993. Voilà, et depuis, on ne s'est jamais quitté. Lui a réussi à passer le Rubicon, d'aller chez les professionnels, chose que je n'ai jamais pu faire moi personnellement. On s'est un petit peu perdu au niveau du boulot. Lui chez les professionnels, moi au sein du Vélo Club Lyon-Montvelin. Et puis on s'est retrouvé en 2006 au sein de l'équipage UZER La Mondiale. Et j'ai eu la chance et le bonheur d'être pratiquement sur toutes ces victoires. Le maillot jaune au Tour de France, la victoire d'étape au Tour de France, la victoire d'étape au Critérium du Dauphiné, la victoire du Tour de l'Ain, la victoire du Tour Med. Voilà, j'ai vécu des moments assez exceptionnels avec Cyril et on se connaît depuis 30 ans. On a fait les 400 coups ensemble. Voilà, donc c'est quelque chose. Voilà, c'est plus qu'un ami, c'est presque mon frère. J'ai été témoin de son mariage, il a été témoin de mon premier mariage. Voilà, donc c'est des choses qui sont, qui marquent la vie. Et c'est vrai que Cyril, ça reste mon meilleur ami dans le monde du vélo.
Ah bah tu vois, je ne le savais pas. Ton meilleur souvenir sur le vélo, j'ai regardé le palmarès. Il y a un petit palmarès amateur. Hein, tu en as gagné 2-3 des courses.
Oui, mais notamment le Tour du Pilat, qui était une très belle course à étapes. C'était l'un des bons souvenirs. Et à cette époque-là, je pensais encore que j'avais la capacité à passer professionnel. Donc, ma victoire au Tour du Pilat à domicile était plutôt un bon souvenir. Et voilà. Mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi, malheureusement, pour passer professionnel.
Ton premier coup de pédale, Julien Jourdi.
Mon premier coup de pédale, c'est grâce à mon frère. Moi, je suis issu du ski de fond. En guillemets, mes premiers dossards, je ne les ai pas mis en vélo, je les ai mis en ski de fond. Et je me servais du vélo pour me préparer au ski de fond. Et puis, la chose s'est inversée. J'ai arrêté le ski de fond pour faire du vélo. Et voilà, donc mes premiers coups de pédale doivent remonter à l'âge de 10-12 ans. Et je me rappelle, j'ai une image qui est sympa. Et c'est pour ça que j'ai une vraie chance de faire ce métier-là. Je me rappelle d'être devant ma télé, de regarder le Tour des Flandres, Paris-Roubaix, et je voyais les coureurs à l'époque, il y avait plus de courses qui se disputaient dans des conditions climatiques un peu plus difficiles, avec de la boue, tout ça, et je me rappelle, la course se terminait, je disais à ma mère, je prends mon cuissard, je vais faire du vélo, et je cherchais toutes les flaques possibles pour avoir de la boue de partout, de ressembler aux coureurs que j'avais vus à la télé au Tour des Flandres, à Paris-Roubaix, je me rappelle d'un Eric van der Arden, voilà, et c'était des choses, c'est mes premiers coups de pédale, et voilà, c'était des belles émotions.
Bon, on y vient, ton idole de jeunesse.
Mon idole de jeunesse, Pedro Delgado. Voilà, c'est clair que Pedro Delgado m'a beaucoup marqué. Également Miguel Indurain, les deux coureurs espagnols qui dégageaient beaucoup de choses pour moi. Mais Pedro Delgado, je me vois encore avec ma radio écouter notamment Europe 1 et souvent entendre le nom de Pedro Delgado dans l'école à l'avant qui faisait la différence pour aller gagner le Tour de France. Et c'est un personnage qui m'a marqué. Et je le suis notamment sur Instagram. Et il est toujours actif. Il pédale encore pas mal, Perico.
Très affûté et très en charge, notamment dans l'organisation de la Vuelta. Il présente souvent la présentation des coureurs à la Vuelta. Perico Delgado, ton pire souvenir dans le vélo, il y en a un ?
Ouais, il y en a. Il y a même. Non, mais c'est des scénarios de. C'est surtout des. Des scénarios de course, hein, quand tu passes à côté d'une belle victoire, et également des chutes, hein, on a vécu des chutes. Je me rappelle notamment, tu dois avoir cette image-là aussi.
Romain Bardet, Catalogne.
Ouais, mais je n'étais pas présent moi ce jour-là. Moi, je
pense, Romain Bardet, Tour de France.
Non, à Jean-Christophe Perrault.
Ah oui,
Jean-Christophe
la
Perrault.
La momie Jean-Christophe Perrault.
Voilà, la momie Jean-Christophe Perrault, et je tiens à souligner le courage de Jean-Christophe sur ce Tour de France. Mais je me rappelle, j'étais juste derrière, j'arrive sur lui à la chute, mais effectivement, il était tombé à 45-50 km/h, mais sur une route, c'était une rampe à gruyère, et on le voit glisser la télé qui tourne. Et je me dis, mais quel temps il va être, et on est arrivé, mais il n'y avait plus de cuissard, il n'y avait plus rien. Et ça fait mal au cœur, notamment les chutes, effectivement, ça fait mal au cœur.
Une galère pendant 3-4 jours, hein, parce que quand je parle de la momie, le lendemain, il partait, 85% de bandage, on ne voyait plus les marques d'AG2R. C'était en 2015, l'année après son podium, non ?
Ouais, ça se peut, j'ai plus trop la date en tête, mais c'est effectivement ça.
Allez, on va avancer un petit peu, on a déjà presque fini, et forcément, Il y a le patron qui voulait te parler. C'est Vincent Lavenu. C'est la quatrième vidéo. Tu la lances et on en parle juste après. Vincent Lavenu, le manager général de l'équipe AG2R Citroën et patron de l'entreprise France Cyclisme.
Je connais Julien depuis bien longtemps maintenant, puisque ça fait plus de 15 ans qu'il travaille aux côtés de l'équipe AG2R Citroën Team. Et c'est un garçon qui est passionné, qui est engagé, qui donne son âme au cyclisme, à l'équipe. Voilà, c'est un garçon qui met beaucoup de passion dans ce qu'il fait. On partage des moments assez exceptionnels avec lui. Voilà, ça fait un complice finalement très efficace au service de la performance. Ce qui fait de lui, je pense, un directeur sportif majeur du cyclisme français. Voilà, donc j'avais une question à poser à Julien. Je voulais savoir qu'est-ce que tu aimerais, dans tes rêves les plus profonds, les plus forts, qu'est-ce que tu souhaiterais voir arriver? On a partagé des choses exceptionnelles avec des deuxièmes places sur Tour de France, derrière Romain Bardet, derrière Jean-Christophe Perrault. On a vécu de très bons moments. Qu'est-ce que toi, tu rêves absolument dans ces prochaines années pour accrocher à ton palmarès?
Alors, moi je sais. Je, tu m'as pas dit, mais je sais.
Oui, non, mais j'ai envie de... C'est le message de Vincent est très sympathique et me touche. Moi, j'ai plusieurs rêves. J'ai plusieurs rêves dans le monde du cyclisme. Le premier, c'est de pouvoir continuer à exercer mon métier avec Vincent, comme il l'a dit. On partage des moments assez extraordinaires et j'ai une chance inouïe. Et ça, c'est mon premier rêve, de pouvoir continuer à exercer mon métier. Parce qu'on a des vraies valeurs dans l'équipe AG2R Citroën Team. Voilà, des valeurs de solidarité, de travail, de famille. Et c'est un tel bonheur de pouvoir partager ça avec l'ensemble de l'équipe, avec nos partenaires et Vincent. Ça, c'est mon premier rêve, de pouvoir continuer le plus longtemps ce métier. Parce que, voilà, je ne sais pas ce que c'est que la boule au ventre pour aller au travail, tout ça. C'est un plaisir au quotidien. Et ça, c'est mon premier rêve. J'en ai deux autres, parce que c'est deux choses différentes. Bien sûr, il y en a un, c'est de gagner un monument. On a eu la chance de monter sur tous les podiums. Milan-San Remo, Liège-Bastogne-Liège, le Tour des Flandres, Paris-Roubaix. Voilà, mais on n'a jamais réussi à monter.
Mécène, Turgot, Wernher Avermaet, Mickey Scheer. Non, pas Mickey. Ouais.
Non, Sylvain Didier. Sylvain Didier à Paris-Roubaix, Romain à Liège-Bastogne-Liège, Greg au Tour des Flandres, Oliver Naessen à Milan-San Remo. Voilà, et voilà, l'objectif, il est de gagner un jour un monument, même si on sait que c'est très compliqué. Voilà. Mais c'est un de mes rêves. Et le second, c'est assez facile. Vincent l'a résumé aussi un petit peu. On a côtoyé les sommets sur le Tour de France avec... trois podiums, et j'aimerais ressentir un jour l'émotion que cela procure de gagner un grand tour. Voilà, bien sûr, le Tour de France en priorité, mais que ce soit un Giro, une Vuelta ou le Tour. Voilà, on a vécu des moments sur le Tour de France, honnêtement, qui étaient extraordinaires avec le podium de Jean-Christophe et surtout les deux podiums de Romain. Pour te donner le jour du contre-la-montre à Marseille ou dans le Vélodrome, je me rappelle de mon discours auprès de Romain. C'est Froome qui a le maillot, on est deuxième. Et je dis à Romain, mais on peut gagner le Tour. On y croyait au départ, même si on savait que c'était compliqué. Mais il n'y avait pas un écart de Barjot ce jour-là. Et j'aimerais revivre ces émotions-là, parce que ce jour-là, je me suis mis dans la peau qu'on pouvait gagner le Tour de France.
Cette année-là, il faut rappeler que Romain rivalise avec Christopher Froome en montagne. Mais c'est peut-être l'année précédente que vous avez raté le coche. Ça se joue à une clavicule de... Une clavicule de Kenyon.
Bien sûr, ouais, il y a ça, c'est clair. Mais voilà, c'est des émotions qui sont assez énormes. Et c'est vrai que sur le plan sportif, comme l'a souligné Vincent, la victoire sur un grand tour, c'est quelque chose qui doit être assez exceptionnel. Et j'ai une pensée notamment pour Nicolas Portal, qui avait eu la chance de gagner beaucoup du Tour de France. Et malheureusement, qui n'est plus là, j'ai une pensée pour lui.
Cyril Guimard.
Ça doit être, c'est quelque chose d'assez impressionnant et Nico nous manque beaucoup. C'était quelqu'un avec qui je discutais beaucoup lors des courses. Et vivre ces émotions-là qu'il a vécues, ça doit être quelque chose d'assez fou.
Eh ben, entrons dans le ronde. Le ronde, ce sera dimanche. Tu vas nous donner Bon, il y a quand même beaucoup de personnes. Comment vous allez faire pour gagner? Quelle sera la tactique des terres et ciels et rouges, comme on doit les appeler maintenant, de l'équipe AG2R Citroën?
La tactique, elle est à la fois compliquée et simple. Compliquée, c'est qu'il faut se défaire de Wout Van Aert et de son équipe et d'autres. Ce qui ne sera pas le seul, même si à l'heure actuelle, il a démontré qu'il était le numéro un. Voilà, et je pense que ça passe par l'anticipation. On ne peut pas attendre le dernier passage du haut de Cormont et du Paterberg pour faire la différence face à des Wout Van Aert, face à l'ensemble des favoris du ronde. Donc, il va falloir trouver des solutions avant de pouvoir anticiper. On sait que c'est quelque chose qui peut réussir sur le ronde. Donc, ça sera l'un des objectifs de Greg et d'Oliver, de pouvoir anticiper dans les 50 derniers kilomètres avec un petit groupe qui s'entend bien, et ça peut fonctionner pour moi. Et on sait qu'après, dans le final, si on a un petit peu enterré les gros bras, on sait qu'à la pédale, Greg et Oliver peuvent vraiment jouer pour aller chercher la victoire du ronde.
C'est tout pour Greg. Greg, podium l'année dernière, vainqueur par le passé du ronde de Van Vlaanderen. Tu as dit qu'il faudra anticiper. Mais là, comment on choisit? Quel est le coureur qui va anticiper? Parce qu'il n'y a pas que Oliver, il n'y a pas que Greg, il y en a peut-être d'autres qui vont pouvoir anticiper.
Oui, bien sûr, mais on a la chance d'être sur un monument, donc il y a plus de 6 heures de course. Donc c'est clair qu'il y a plusieurs phases d'anticipation sur le ronde. C'est clair que Greg, lui, est au dernier étage et c'est le dernier coureur qui doit anticiper dans le final. Et avant, on sait qu'il y a des belles opportunités et c'est clair qu'Oliver peut les saisir, même un stand de Wulf peut les saisir. Donc c'est clair que une fois qu'on rentre dans les deux dernières heures du ronde, on peut croire à nos rêves. Et c'est clair que ces rêves, ils passent par de l'anticipation assez tôt pour certains, un peu plus tard pour Greg, mais c'est clair qu'il va falloir provoquer des choses pour aller chercher la victoire.
On va prendre 3-4 minutes pour prendre vos questions, parce qu'on a dépassé, je t'avais dit une demi-heure, ça fait 50 minutes qu'on est ensemble. Je pense qu'on va, ça passe vite quand on parle vélo, quand on parle de trucs qu'on aime. Il y avait une question, je la prends la première, plutôt ronde ou Paris-Roubaix, si tu devais en gagner qu'une? Attends, je voudrais retrouver, c'est Frédéric qui posait cette question. Posez vos questions, vous partagez l'émission et vous gagnez.
Sans hésitation, le ronde.
Plus qu'en Roubaix.
Ouais, plus que Roubaix, j'ai à moi cette course.
Mais t'es français ou t'es belge, toi?
Non, je suis français, bien sûr, Paris-Roubaix. On va pas, voilà, c'est clair que c'est un monument, c'est énorme. Mais j'ai un peu plus de frissons pour le Tour des Flandres que Paris-Roubaix.
Ce monsieur, je ne sais pas si vous le savez, je vais donner un petit secret. Je ne suis même pas sûr que tu sois au courant. Monsieur, pour les vacances de Noël, déjà que bon, voilà, c'est compliqué, il emmène sa femme et son gosse en Belgique, sur les traces du Tour des Flandres. Sacré pèlerinage. C'est vrai, ça?
Ah, c'était sympathique. On a fait en voiture, par contre. On a fait une partie du parcours du ronde en voiture avec mon petit garçon. Il y avait également mon frère et mon épouse. Et c'est pour qu'ils ressentent un petit peu ce que je peux moi ressentir. Ben, là, actuellement, là, je suis depuis bientôt une semaine ici en Belgique, au milieu de cette foule, de ces fans, de ces supporters. Et voilà, et qui voyait un petit peu justement la beauté en direct de ce que c'est qu'un ronde. Et c'est clair que mon frère, qui est un amoureux du vélo, quand il a vu le Koppenberg, le haut de Cormont, il n'en revenait pas. Mais il dit, mais les coureurs, ils ne passent pas par là.
Et encore, il les a vus sans public.
Oui, bien sûr.
Ils seront au départ. Est-ce que tu vas les amener au départ? Moi, j'avais le même... Français. Puis un jour, j'ai eu la chance d'aller au départ du ronde avec Jackie Durand. Et quand je te le dis, tu vois, regarde, il n'y a pas d'effet spécial, les poils, ils se lèvent tout seuls.
Bien sûr.
Il y a une sorte, tu parlais de semaine sainte tout à l'heure, on est entré dans cette semaine sainte. Ouais. Je crois qu'en France, on ne peut même pas comprendre ce que représente le Tour des Flandres. Paris-Roubaix, c'est le grand public français. Le Tour de France, c'est le grand public français. Non, le vélo en Belgique, tout le monde suit le vélo.
C'est le peuple belge qui est présent.
C'est le peuple belge qui sera derrière.
C'est clair, et ça, c'est exactement ça, Guillaume, c'est des émotions, c'est fou à Anvers dimanche matin, la présentation des équipes, c'est juste quelque chose d'exceptionnel. Le parcours, on traverse Saint-Nicolas, voilà, les villes sont bondées de deux mondes, et le circuit autour du haut de Cormont est noyé de public, et c'est clair, cette ferveur, elle est assez impressionnante, et c'est clair que, voilà, c'est pour ça que j'avais emmené ma famille... c'est clair qu'il y a beaucoup moins de monde au mois de décembre qu'au mois d'avril. Mais oui, effectivement, j'aimerais un jour qu'ils puissent assister en direct live à une course comme celle-ci, parce que c'est des émotions folles.
On a plein de questions, donc tu vas me faire court. Y a Mickaël qui dit pas de questions, mais merci pour votre passion et votre amour pour votre métier qui transpire dans votre discours. Et puis une question, Jean-Christophe, si tu avais un budget no limite, une recrue que tu aimerais avoir. J'appelle Vincent en même temps.
Non, mais en plus, il est dans l'hôtel. Il est dans l'hôtel avec nous, Wood Van Aert.
C'est cher ?
Ouais, c'est cher.
Il viendrait dans une équipe française, Wood Van Aert ? Une équipe.
Non, je sais pas, mais c'est vrai que tous les fantasmes sont possibles avec lui. Hein. Bah, il l'a démontré l'année dernière. Chrono, le Ventoux et le sprint sur les champs. On peut pas faire mieux. Hein.
Mais là, c'est pas mal. Mieux. Depuis le début de la saison, c'est pas mal aussi. Hein.
Ouais, donc c'est clair, pour moi, le coureur idéal à l'heure actuelle, c'est Wout Van Aert.
Dom, donc, quand l'équipe Delco a claqué, vous avez pensé à aller chercher Binyam Girmay?
Oui.
Parce que j'ai posé la question à plein d'équipes françaises, ils m'ont tous dit oui, mais personne ne l'a fait.
Oui, c'est vrai. Vincent a beaucoup de regrets, parce qu'on s'est fait piéger par Monty et ils ont bien réagi. Félicitations à eux. Mais ça a été quelque chose. On a eu, je pense, toutes les équipes françaises ont eu un temps de retard par rapport à Monty. Mais on s'est tous posé, nous, en tous les cas, on s'est posé la question, on s'est renseigné, mais malheureusement, le contrat était déjà ficelé chez Monty.
Paul Lapeyra, dans 2, 3, 4 ans, un grand sur le tour. Romain qui te pose sa question. Il est néo-pro, hein, Paul Lapeyra, on l'a vu sur le tour des Émirats Arabes Unis en début de saison sur les antennes d'Eurosport où il s'est fait un pote, un Italien, Jonathan Milan.
Un bon puncher, plutôt sur le profil Benoît Cosnefroy. Donc, j'espère que d'ici 2-3 ans, effectivement, Paul sera un chasseur d'étapes lors des arrivées difficiles. Pour les courses à étapes, c'est un peu trop tôt pour en parler. Mais c'est un très, très bon puncher qui a un très bon sens de la course. Et effectivement, je pense que Paul a un bel avenir dans vélo.
Des nouvelles de Benoît Cosnefroy, justement, Bebe, qui est tombé sur Milan-San Remo. On va compter sur lui, sur les Ardennaises. Il en est où, ouais. Benoît Cosnefroy, vainqueur à Plouay l'année dernière de sa première classique World Tour.
Ben Benoît se prépare pour aller justement aux Ardennaises. Ça va passer par le circuit de la Sarthe. Ça va passer également par la Flèche Brabançonne, l'Amstel, et puis bien sûr la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège, où il aura beaucoup d'envie de victoire.
Alors, je cherche encore des questions. Tiens, moi, je vais t'en poser une. Je vais me faire engueuler par Vincent. Vincent est le dernier grand manager à être dans la voiture pendant la course. Est-ce que tu as envie de lui dire des fois de descendre? Non, là, il est embêté, non. Julien.
Non, je ne suis pas du tout embêté. Parce que avec Vincent, comme il l'a dit, et je suis présent à côté de lui depuis 16 ans. Et forcément, ça met une certaine pression d'être avec son patron. Je ne veux pas dire le contraire, voilà. Mais Vincent m'est tellement à l'aise, honnêtement, c'est un père de famille, Vincent. C'est un père de famille. Donc forcément, dans la voiture, des moments, c'est tendu, mais ça fait du bien. Et c'est important d'avoir deux réflexions dans une voiture. Ça pourrait être un directeur sportif, c'est Vincent. Et Vincent a une culture du vélo qui est assez impressionnante. Bon, voilà. Des moments, ce n'est pas facile, parce que d'être avec son patron, ça représente beaucoup de choses. Hein. Passé 4 heures, 5 heures, 6 heures avec son patron. Mais moi, je retire beaucoup plus de positifs que de négatifs.
On va regarder le programme de dimanche. Il y aura à travers la Flandre. Ce sera en milieu de semaine. On pourra suivre sur Eurosport. Mais dimanche, c'est le retour des Rois de la Pédale. 9h45, on se retrouvera sur le plateau avec Géraldine Weber et Steve Chenel. Le départ, c'est à 10h. J'ai mis 10h05, j'ai vérifié 10h. C'est le départ fictif. 10h18, je vous donne l'info. Départ réel de ce Ronde van Vlaanderen. On retrouvera Jackie Durand, Steve Chenel. 16h45, on fera un petit débrief très court de la course garçon. Et puis, on partira sur la course fille qu'on pourra suivre dès 15h d'ailleurs sur les applications Eurosport. Et là, ce sera en compagnie de Louis-Pierre, que tu connais bien, et d'Audrey Cordon-Rago. Et puis à 18h, le grand débrief, toutes les interviews, bien entendu, tout ce qu'il fallait savoir de ces deux éditions au masculin et au féminin. Le mot de la fin, parce que là, c'est l'heure de bouffer, tu vas rater la collation, c'est presque 19h. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette semaine? De vibrer déjà, Julien?
Ouais, de vibrer, d'être acteur et de ne pas avoir de regrets. C'est ce que je dis souvent aussi à mes coureurs, de ne pas avoir de regrets, d'oser faire les choses. Et ça commence par mercredi à travers les Flandres. On a une semi-classique de 184 km où il y aura des opportunités. Et pour trouver de la confiance avant le ronde, je pense que c'est important de faire une belle course mercredi. Et après, Inch'Allah, tous les rêves sont possibles pour le ronde. Et voilà, on a fait troisième l'année dernière, donc pourquoi pas gagner en 2022.
Une dernière question puisqu'elle arrive, l'équipe féminine à G2R, je sais que c'est dans les tuyaux mais que vous allez y aller piano pano, peut-être en commençant par la base plutôt que d'aller directement au sommet, c'est ce que j'ai entendu.
Oui, effectivement, ce n'est pas un dossier où j'ai beaucoup d'informations, mais je sais qu'effectivement, c'est dans les tuyaux pour avoir une équipe féminine. Alors, en quelle année, ça, je pourrais le dire.
On en reparlera. Un grand merci, Julien Jordi. Je voudrais en profiter pour
Merci à
remercier
toi.
Yves Perret, qui nous a un petit peu aidé, tu t'en doutes. Remercier aussi l'OGC Nice, Christophe Galdier, Damien Reich, qui est le responsable de la communication, Sébastien Petit, qui lui a tout fait. Moi, je fais rien. Je mets un peu de maquillage mal, et c'est tout. Et puis, on se retrouve toute la semaine avec Julien Jordi, les terres et ciel et rouges. Moi, j'aimais bien les terres et ciel, donc maintenant, je dis les terres et ciel et rouges. On vous souhaite tout de bon sur la route. Et la semaine prochaine, ce sera un rouge et blanc, un Cofidis, Brian Cocard, qui sera dans le bistrot. Il sera en compagnie de Colin Bourjat. Salut Julien, bonne semaine
Merci,
belge, mon
merci à toi,
ami.
Guillaume.
N'hésite pas à taper une gueuse, hein, mon copain.
Il y a tout ce qu'il faut.
Santé.
Merci, Guillaume.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.